Eh bien, bonjour ou rebonjour pour la plupart, j'imagine. Donc, bienvenue à la table ronde positivisme et science-fiction. Sachant pas trop ce que ça veut dire, mais on en parlera peut-être de ça. Alors, parmi nos invités, nous avons Milad Douéhi, historien des religions, titulaire de la chaire d'humanisme numérique à Paris 4 Sorbonne, qui prévoit de publier 3 ouvrages en 2017, je crois, dont l'imaginaire de l'intelligence au seuil. À côté de notre invité, nous avons Sylvie Alouche, docteur en philosophie, maître de conférence à l'Université de Lyon, et qui fait un usage très intéressant et très original de la philosophie relativement à la science-fiction, bien sûr, mais aussi aux séries télévisées, etc., ce qui nous permettra d'avoir une vision de la chose beaucoup plus large. À côté, Pierre Bordage. Alors, on vous fait le coup à chaque fois, j'imagine, on ne vous présente plus. Voilà, on vous fait le coup. On ne vous présente plus, mais vous êtes quand même l'une des, si ce n'est la grande voix de la science-fiction française. Vous avez été président des Utopiales, donc ici de 2000 à 2011, l'auteur de l'incontournable Les Guerriers du Silence, et vous publiez ou vous avez publié cette année, on se vous voit, hein, ça fait. Vous avez publié Boxing Dolls chez Organique, et puis hier, je vous donnerai de mes nouvelles, un recueil chez L'Atalante qui est paru lui, hein, par contre, en juin 2016. Et à côté, nous avons Karim Berouka. Alors là aussi, vous avez une obligation de présentation incontournable, j'imagine. Chanteur parolier du groupe Ludwig von 88. Toujours ça se... Ou c'est fini?
Non, toujours.
Ah, très bien, très très bien. Et vous êtes un auteur qui a été remarqué très rapidement avec notamment son recueil de nouvelles chez ActuSF, Les ballons dirigeables rêvent-ils de poupée gonflable, auquel a suivi Fayouid et Guillotine, et récompensé hier soir par le prix Julia Verlanger, le club des punks contre l'apocalypse zombie. J'aimerais qu'on parle après ou pendant la table ronde d'un livre que j'ai beaucoup aimé, qui est Cyclone, qui se trouve assez bien à la problématique. Alors, il s'agit de parler de positivisme et de science-fiction. Je n'ai pas compris l'intitulé, si... J'espère que c'est pas le positivisme, l'école. Pardon. Je ne comprends. Non, mais Audrey Alouette, bien sûr, qui vient de la bande dessinée. Je suis navré. Bonsoir, je m'en vais. Qui commence à l'Enfus Mag, au studio Gottferdom, qui est remarqué par une création qui est la princesse Sarah. Et qui
Sinbad aussi. Steampunk, comme son nom ne l'indique pas d'ailleurs.
Oui. Et qui, elle aussi, chez ActuSF, a été remarquée cette année. C'est une parution assez récente.
Ça, 3 semaines.
Oui, voilà, c'est ça. Les prisons de Catars, avec là, pour le coup, dans la seconde partie de l'intitulé, un enjeu qui est très intéressant. On parlera de votre ville beaucoup, parce que là, il y a de quoi questionner. Voilà. Bien, et après cet impair monumental et mon incompréhension de l'intitulé, on est à l'aise maintenant, toutes les bêtises ont été faites. Alors, positivisme, je ne sais pas ce que ça veut dire, j'espère que ce n'est pas le mouvement ou l'école philosophique du 19e siècle, parce qu'on est mal barré si c'est ça. La prochaine table ronde, ce sera Platon et la nanotechnologie, je ne sais pas. Alors, positivisme, je propose qu'on le prenne comme tout simplement être positif. Et science-fiction, sauf si bien sûr nos éminents spécialistes y voient autre chose. Alors, la science-fiction, effectivement, les deux tendances existent depuis le début. Soit elle est positive, elle nous dépeint des lendemains qui seront merveilleux, soit au contraire, elle verse dans la dystopie, dans l'obscur, dans le noir. Alors, j'aurais commencé par Milad Douéhi. Selon vous, pourquoi la science-fiction, le récit scientifique, porte ces deux tendances, à savoir être positif ou l'être pas du tout?
Je ne sais pas si c'est facile répondre à la question. En tout cas, mon intuition comme lecteur de science-fiction, je suis plutôt côté américain parce que je lis chez Américain. Je crois qu'il y a une dimension de dualisme, presque de manichéisme, de conflit, que ce soit sur des échelles différentes, qui traverse en gros une grande partie des grands récits qui ont façonné la science-fiction. Du coup, on va toujours avoir une dimension un petit peu positiviste, utopiste, ainsi de suite, et d'autre côté, un peu, voilà, de l'autre côté. Par contre, les plus intéressants souvent sont un petit peu les hybrides, pour reprendre l'expression. Mais à mon sens, peut-être, et ça on le voit de façon de plus en plus explicite et plus en plus multiple, il y a une certaine forme de dualisme qui semble habiter, je dirais, les grands récits de science-fiction. Peut-être, c'est évidemment un point de vue extrêmement excentrique de limiter à mes lectures et à mes orientations, mais en tout cas, c'est ça, bien sûr. Curieusement, cette dimension-là, on va la retrouver ailleurs, ce conflit entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres, qui peut après recevoir des formulations un peu plus nuancées, on va dire, mais néanmoins, il me semble que c'est quelque chose qui joue énormément. Et puis qui peut expliquer aussi l'aspect positiviste dans le sens qu'on s'est convenu d'accepter, en tout cas. Oui.
Et c'est un dualisme qui existe dans toutes les déclinaisons de la science-fiction. On trouve ça en littérature, au cinéma, en série télé, Sylvie ?
Alors moi, j'avoue que je suis un peu troublée par la définition de positivisme qui a été retenue, mais nous sommes philosophes.
J'en ai pas donné, justement.
Oui, parce que en fait, il y avait un petit résumé dans le programme qui orientait un petit peu le débat. Donc, mais bon, qui était plutôt orienté, oui, sur disons... Alors, je ne l'ai pas retrouvé, parce qu'en fait, je n'ai pas le programme avec moi, mais c'est le... positivisme, effectivement, entendu comme une interprétation positive de ce que peut nous apporter la science. Enfin, donc, ça correspond à votre compréhension. Et ce n'est pas non plus, comme vous le suggériez, décorrélé de l'interprétation, disons, traditionnelle, philosophique de positivisme. Or, après, sur la question générale... oui, il me semble, enfin, de toute façon, ce serait difficile de faire autrement que dans la science-fiction, il y a un débat permanent entre la question de savoir si on va plutôt être du côté de l'optimisme ou du pessimisme. Ce qui me paraît intéressant, c'est la perception de cet optimisme ou de ce positivisme d'un côté et du pessimisme de l'autre, peut-être assez différente. Et des gens, ça c'est une pratique courante, qui veulent critiquer la science-fiction et en dire du mal. Selon ce qu'ils ont à dire, ils vont dire « Ah non, mais la science-fiction, ça va pas, ça chante en permanence les louanges de la science. » Ou alors, au contraire, s'ils disent « Non, mais la science-fiction, ça va pas, ça donne une vision beaucoup trop négative de la science et de la technique. » Alors après... sur la question de savoir est-ce qu'il y a une dominante, si c'était ça la question, bon, évidemment, il faudrait peut-être faire une vraie étude scientifique sur le sujet, mais le corpus est énorme. Il me semble quand même, d'intuition, je dirais que pour ce qui est du propos explicite, probablement qu'en général, la littérature de science-fiction est plus du côté du positivisme, de la technophilie, alors que le film à grand spectacle, enfin la science-fiction cinématographique, essentiellement les films hollywoodiens, se présentent en général comme des fables d'avertissement et se présentent au niveau du propos explicite plutôt comme attention, la technique peut être dangereuse. Mais c'est aussi parce que c'est un ressort facile de scénario, c'est plus facile de construire une histoire avec ce genre de ressort narratif parce qu'on a d'emblée un problème en l'espace avec la technique et du coup il faut surmonter ce problème. Voilà. Alors que si on veut raconter une histoire intéressante mais que la technique est présentée, enfin que la science et la technique sont présentées plutôt comme positives, il va falloir trouver un autre ressort. Et il y a un auteur de science-fiction que j'aime beaucoup qui s'appelle Brian Stableford qui lui-même, alors justement il a publié notamment une série de science-fiction qui s'appelle The Immortality Series, qui imagine un développement futur de l'humanité où il y aurait une forme d'immortalité, mais écrit avec un E qui n'est pas une immortalité totale. Et je l'avais invité à une série de conférences sur l'augmentation humaine, et il avait proposé un article, mais donc a été publié en anglais, où il dit, où il explique que il a développé, enfin que lui, il a essayé de mettre en place une science-fiction qui part de la prémisse que la science-fiction, que la science est quelque chose de positif. Et du coup, c'est plus compliqué au point de vue narratif. Enfin, il l'explique et ça me paraît assez logique. Dernier point là-dessus. Cette distorsion entre science-fiction littéraire et science-fiction cinématographique, on le voit par exemple avec l'adaptation de I, Robot, qui est une nouvelle d'Isaac Asimov, qui est plutôt une version positive de la science-fiction, une vision enchantée de la science. Mais l'adaptation en film de la nouvelle I, Robot a marqué les esprits, et souvent négativement pour ceux qui connaissaient la nouvelle, parce qu'elle distordait complètement cet aspect, et les robots, qui sont plutôt des figures positives chez Asimov, dans l'adaptation cinématographique, d'une certaine façon, le sens profond de la vision robotique d'Asimov est trahi dans le film, puisque il y a une histoire archi-classique dans le cinéma de science-fiction de révolution des robots contre leurs créateurs. Voilà.
Quand je disais que je n'avais pas compris l'intitulé, c'était évidemment pour faire référence au positivisme qui, justement, détermine la science comme étant quelque chose de positif. Et vous l'avez bien rappelé les deux, la science-fiction, elle, pour justement le discours négatif. Et justement, Pierre, dans votre travail, souvent les sociétés, les intrigues sont noires, elles sont même violentes au point de vue individuel ou collectif. Et quand il y a de l'espoir, ce n'est pas un espoir gratuit. Les gens se battent, il faut qu'ils créent leurs conditions optimistes. Comment vous ménagez comme ça les sociétés violentes, noires, et l'impulsion à quand même fabriquer son espoir?
Alors, je me considère d'abord et avant tout comme un auteur optimiste, qui utilise des biais pessimistes pour proposer de nouvelles pistes éventuelles qui pourraient nous sortir de la vision noire des choses. Je pense que la science-fiction, pour moi, elle appartient au grand corps mythologique. Et je sais que certains ne sont pas d'accord avec ça, mais bon, c'est pas très important. Et que les récits mythologiques, tels que définis par Joseph Campbell, hein, quand le héros aux mille visages, qui se lève, c'est parce que le monde est en disharmonie. Donc j'utilise ce principe de la disharmonie du monde pour que des héros se lèvent et que les héros fassent un chemin initiatique qui propose de nouvelles solutions par la suite. Par ailleurs, il me semble que la science n'est ni négative ni positive. La science est, et elle est ce qu'on en fait. La science était négative par elle-même, ça voudrait dire qu'on n'a aucune chance face à la science, que la science finissait par nous supplanter ou nous éliminer en tant qu'espèce. Donc elle n'est pas ni négative ni positive, elle est simplement la science, et elle est ce qu'on en fera. Et je pense que là, les auteurs de science-fiction ont vraiment leur place pour proposer des espaces de réflexion sur ce développement scientifique. Je rappelle la conférence ou le livre de Jean-Michel Truong, Totalement inhumaine. Est-ce qu'on en arrivera là, la totale inhumanité, c'est-à-dire est-ce que nous finirons par être éliminés en tant qu'espèce, parce que espèce non fiable, organique, émotionnelle, où la vie préférant se transférer sur des supports plus solides, plus fiables, qui sont le silicium ou ce genre de choses. J'espère qu'on n'en arrivera pas là, mais je pense qu'il y a une réflexion urgente à mener par rapport à la science et par rapport à tous ces développements-là. Il ne s'agit pas d'être négatif ou positif, hein, vous avez parlé de manichéisme tout à l'heure, c'est de classer en bon et en mauvais ou de faire une morale là-dessus. C'est simplement d'avoir des choses, une vision éclairée, neuve, et je pense que cette vision passe par l'introspection plus qu'autre chose, c'est-à-dire que je pense que la science ne pourra jamais nous accorder le bonheur, pas plus qu'un dieu quelconque extérieur peut nous accorder le bonheur, que toutes ces ressources sont en nous. Et il me paraît urgent de rentrer à l'intérieur de nous pour réfléchir de façon libre, de façon nouvelle, de façon non connue. Hein. Je fais référence au livre de Krishnamurti qui s'appelle « Se libérer du connu », pour que nous puissions avoir des choses, une vision neuve et proposer de nouvelles voies d'évolution. Et c'est l'essentiel de mon travail, c'est-à-dire que le noir fait partie de l'être humain. J'explore aussi bien le noir que le lumineux. Le noir, sans juger le noir, mes personnages peuvent être très noirs. J'ai fait ça dans Absalom, par exemple, où mon personnage est le plus noir possible, puisque c'est un criminel qui décervelle des femmes. Désolé, mesdemoiselles, mesdames. Mais qui va connaître une rédemption que j'ai accompagnée jusqu'au bout. C'est à passer par l'amour et par la connaissance de soi. Et donc, je crois fermement à ces notions-là. Et il faut éliminer, à mon avis, toute notion de moralité des choses, pour essayer de sortir des sentiers battus, des systèmes de pensée tout préparés, pour avoir des choses, des événements, une vision totalement neuve. Donc je suis très optimiste, comme vous pouvez le constater.
Oui. Audrey, vous proposez une espèce de modèle sociologique, on pourrait dire, dans les prisons de 14, puisque votre ville décide de réguler sa population de manière radicale en massacrant une partie de celle-ci. Et donc, comment, en tant qu'auteur, décider de partir sur des prémices aussi sombres et construire quelque chose d'un peu plus optimiste et vivant, pour le coup ?
Alors, en fait, c'est tout simplement parce que ce n'est pas du tout mon point de départ. Dans Les Poisons de Catharsis, en fait, j'ai un personnage principal, une tyranne, qui a en fait un très gros problème. Elle a une charge absolument colossale sur les épaules parce qu'elle est sur une ville-prison. Alors déjà, bon, ce n'est pas elle qui a demandé à être là. Hein, elle est la descendante d'une dynastie. Elle a ça en charge. On l'a préparée à ça depuis sa naissance. Une ville-prison dans laquelle les trois royaumes voisins déversent leur tribune indésirable tous les ans et les gens ne peuvent absolument pas en sortir. Sauf qu'elle est la seule à connaître le secret de la ville, à savoir qu'il y a un démon qui dort sous la ville et qui se réveille quand la barre des 100 000 âmes sont effranchies. Et donc, en fait, elle est obligée de mener une politique sanguinaire pour sauver le plus grand nombre, mais en fait, c'est absolument pas sa volonté propre. Et en fait, elle se retrouve donc évidemment profondément haïe à faire quelque chose qu'elle déteste faire, mais elle n'a pas le choix, mais elle est obligée de faire ce compromis moral. Et en plus, il y a cette espèce d'épée de Damoclès terrible au-dessus de la tête où elle sait que ça ne tiendra pas éternellement. D'ailleurs, au début du roman, les 99 000 âmes sont atteintes. Le prince du royaume voisin, qui a un gros souci d'image, décide de raser la ville. Il arrive avec son armée beaucoup trop nombreuse. En plus, évidemment, tout cela se fait sous couvert de coups fourrés, manigances, etc. Elle doit déjouer des complots à tour de bras puisque, à cause de sa politique, évidemment, tout le monde dans la ville cherche à la désinguer. Et par-dessus le marché, il y a une sorcière très puissante qui est la plus puissante de la Terre des Reins, qui normalement est le dernier atout dans sa manche puisque c'est la seule à être capable d'affronter ce démon. Et elle disparaît à la moitié du bouquin et elle ne sait absolument pas. Donc en fait, elle se retrouve juste à gérer un bordel absolument monstrueux. Mais en fait, bon, c'est vrai, quand on le présente comme ça, ça peut sembler assez noir. En fait, c'est un roman qui est pétri d'humour parce que déjà qu'on marche vers l'apocalypse, si en plus on ne peut pas le faire en se marrant, enfin je veux dire, voilà, enfin... Là, puisqu'on doit parler de science-fiction et positivisme, pour moi, je pense qu'on ne peut pas aborder ce thème sans parler de Terry Pratchett. Alors, je ne sais pas si ici, enfin, j'imagine que oui, quand même, il y a des lecteurs de Terry Pratchett. Vous pouvez un peu lever la main, que je vous repère. Ouais, quand même. Bon, pour moi, Terry Pratchett, c'est l'optimisme porté à son pinacle, parce que pour moi on ne peut pas parler de positivisme sans parler d'humanisme. Enfin, c'est deux notions qui sont intimement liées, et Terry Pratchett en avait beaucoup. Et en fait il s'est montré, donc il nous a quitté il y a maintenant à peu près un an et demi, et le positivisme jusqu'au bout, pour moi, c'est quand on a tous appris sa mort de la même façon. Donc il avait un personnage, pour ceux qui ne connaissent pas, qui était la mort, qui était peut-être le personnage le plus humain de tous, même s'il en avait beaucoup, qui est extraordinaire. Et on le repérait parce qu'il s'exprimait toujours en majuscules. Et quand il est parti, tous les fans du monde entier l'ont appris par un tweet, pardon pour l'accent, qui disait « At least, Sir Terry, we must walk together ». Finalement, Sir Terry, nous devons marcher ensemble. Et c'est comme ça qu'on a su qu'il était parti. Et pour moi, le positivisme, c'est ça. Il nous a presque fait rire. Il nous a emmené dans son univers jusqu'au bout. Et d'ailleurs, ses fans l'ont suivi, puisque c'est quand même la seule fois où, après la mort d'un auteur, on a lancé quand même une pétition à la mort pour qu'elle nous le rende. Donc voilà, avec des fans qui ont dit « Mais est-ce que tu es sûr, mort, de vouloir, de pouvoir rencontrer ton créateur quand même ?» Et voilà, il y a une suite, et je pense que c'était le plus bel hommage qu'on puisse lui rendre. C'est voilà, le positivisme, pour moi, c'est lié à l'humanisme, à tout ce qu'on a de plus humain en nous. Et Terry Pratchett, pour moi, était la plus grande figure du positivisme.
Karim, on rit chez vous, c'est sûr. On rit souvent, mais à quel prix ? Moi, je me souviens d'un de vos textes, ce qui était Cyclone, illustré par
Bruno Leroy.
Merci beaucoup. Ouais. Qui était Heure et malheur de Georges, ouais. Qui était en fait clones, mais non réussis, puisque chacun avait un sixième du modèle, et on riait, c'était à la fois terrifiant. Comment vous ménagez, justement, parce que vous, c'est pas séparé, comme on pourrait le penser dans la problématique, mais vous les mélangez, le rire et l'horreur.
Je sais pas s'il est très drôle, ce texte-là.
Non, mais il me fait rire, moi.
Non, mais oui, c'était l'idée de travailler sur l'identité et d'avoir une sorte de clone. Ça n'a rien à voir avec le sujet, je suis désolé. Hein. Auguste Comte va se retourner dans sa tombe. Mais c'était travailler sur l'identité et de se poser des questions par rapport à une technologie qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne maîtrisera peut-être jamais, mais j'en sais rien. Mais qu'est-ce qui va se passer si on a des personnages identiques, si on en a six? Et là, l'histoire en gros, c'est les six sont persuadés évidemment d'être l'original. On ne sait pas lequel est l'original et s'il y en a un. Mais de mettre cette situation, de la poser par rapport, de poser les questions par rapport à notre société, c'est que je ne sais plus ce qui se passe exactement, mais il y a une interrogation sur la religion, à savoir si. Si pour des religieux, s'il y a six personnes pareilles, on va faire quoi? On va compter tous leurs péchés, on va les additionner. Et le jour où ils vont monter au paradis, on va faire quoi si dans les six, il y a un tueur en série et si dans les six, il y a un... Enfin bon, c'était d'essayer de mettre des petites... De prendre des problématiques scientifiques, hein, là c'était le clonage, et de se dire qu'est-ce que ça va apporter socialement comme problème. Je pense que c'est peut-être un truc qui se fait pas assez souvent sur les bouquins de science-fiction parce que c'est assez compliqué à gérer, que c'est peut-être pas toujours l'envie des auteurs, mais de se dire, par exemple, on va inventer la téléportation. Techniquement, c'est quelque chose qui fait rêver tout le monde. C'est l'apport de la science. Mais comment ça marchait ? Quel problème ça va engendrer ? Et je pense que si vous prenez vraiment la tête, vous allez découvrir des tonnes de choses. On avait justement une table ronde ici sur les voitures volantes il y a 2-3 jours et on s'apercevait que... Enfin, on pouvait juste dire que c'est très beau de faire des voitures volantes, mais les faire voler dans le ciel avec des embouteillages et tout ça, c'était pas très, très, très réalisable. Donc je ne sais plus pourquoi je parle de ça, parce que... Mais pour en revenir au positivisme, enfin pas vraiment le positivisme, parce que je ne serais pas capable de le définir. J'ai passé quand même 15 heures à lire des résumés là-dessus. Puis hier soir, j'ai pris une grosse caisse parce qu'on faisait la fête et du coup, j'ai tout oublié. Mais dans l'idée de la technologie qui apporte au monde des améliorations, on a eu un gros mouvement à la fin du 19e siècle, notamment aux États-Unis, où il y avait plein d'utopies technologiques qui avaient été conçues et qui avaient été écrites, hein, notamment par... je ne me rappelle plus des noms, mais je me rappelle d'une parce qu'elle a été écrite par M. Gillette, qui plus tard a fait des rasoirs, où non mais c'est vrai, hein, c'est pas une blague... où on découvrait la technologie, on découvrait la science, on découvrait l'électricité, les applications de la thermodynamique, et tout d'un coup on était certain que grâce à cette science on allait avoir des sortes d'utopies qui allaient se réaliser, des mégalopolis. Le bouquin de Gillette qui s'appelle, je crois, La dérive humaine, imagine les États-Unis avec une dizaine de mégapolis où plus personne travaille parce que les machines travaillent à leur place. Où ça laisse beaucoup de temps libre et ça leur permet beaucoup de consommer puisqu'il était très, très porté sur la consommation puisqu'il voulait vendre et devenir riche, hein. Mais y en a pas mal, hein. Alors, donc les spécialistes de littérature du fin du 19e pourraient vous les citer. Puis après on a un peu découvert qu'il y avait des mauvais penchants à la science. On a eu des bouquins comme Brave New World, non pas Brave New World, comment ça s'appelle, hein, c'est ça. Ouais, ou des films comme Metropolis de Fritz Lang, où finalement la science ont montré quand même qu'il y avait un mauvais côté. Et puis on a eu la Deuxième Guerre mondiale, où là on s'est aperçu que tous ces rêves de science, ils pouvaient aussi devenir des cauchemars, et ce mouvement a disparu. C'était très américain, mais je pense qu'il y en avait aussi en Europe, je ne sais pas, peut-être que vous êtes plus...
Même si déjà dans Frankenstein, par exemple, on avait déjà pourtant la science qui vire au cauchemar... Voilà, tellement dans le premier roman du genre, quelque part, il y avait déjà l'avertissement.
Avec déjà l'électricité qui était de la magie quasiment pour les, oui, pour les gens qui ne comprenaient pas comment
alors ça pouvait
fonctionner.
Alors surtout en plus avec Marie Shelley, ce qui est assez génial, c'est qu'elle a écrit la première œuvre de science-fiction, mais elle a aussi écrit la première œuvre post-apocalyptique avec le dernier homme. Et toi, c'est vrai que c'est enfin avec le club des punks contre l'apocalypse zombie, t'es aussi pareil sur l'apocalypse. Mais alors par contre, toi, enfin moi, je trouve passionnant ton bouquin parce que tu mets quand même beaucoup de bonne humeur dans ton apocalypse. Enfin, c'est un point de vue, je trouve, assez inédit.
C'est quelque chose de joyeux, l'apocalypse, puisqu'après.
C'est enfin l'anarchie.
Après que les morts renaissent, eh bien Jésus-Christ arrive et puis on est tous heureux. Voilà. Donc, célébrons l'apocalypse.
C'est plus complexe que ça, en fait.
Alors, pourquoi déjà l'intitulé, j'y reviens, je dois bloquer là-dessus, mais pourquoi on n'attend pas, par exemple, de la littérature générale, optimisme et littérature générale? Pourquoi pour la fantaisie, on ne dit pas, j'en sais rien moi, recherche du bonheur et fantaisie, pourquoi on attend ça de la science-fiction?
Ça, c'est notre rapport avec la science. Plutôt qu'autre chose. Voilà, on a toujours un certain moment, parce qu'on a quand même optimisme, c'est associé historiquement à Leibniz. En France, c'est Voltaire dans ses versions un petit peu qui va ridiculiser de certains points de vue le meilleur du monde, pour revenir un petit peu avec Huxley et ailleurs. Je crois là, on est dans un rapport avec la science et surtout avec la figure de Newton et la fin du XVIIIe siècle. On avait une idée extrêmement positive, pour utiliser le mot, et je crois, voilà, il y a un côté qui est plutôt science, pas seulement technique, mais la science dans, voilà, et je crois la science-fiction, et c'est ça ce qui est passionnant, elle va interroger ça d'une façon et la travailler, pour ne pas rester dans un discours qui est linéaire, simplifié, et ainsi de suite, et du coup, elle peut à la fois visiter les figures historiques et les représenter autrement, mais en même temps interroger, que ce soit le cloning ou des choses qui arrivent et ainsi de suite, je crois, voilà. Mais à mon avis, c'est la réponse, c'est notre rapport avec la science. Quand même, il faut se rappeler que jusqu'à la bombe nucléaire, on a vécu une période, une époque où la science était presque intouchable, on va dire, c'était le paradigme, le domaine un peu surestimé comme quelque chose qui peut sauver, ainsi de suite. Avec la religion, c'est intéressant de revisiter les cas américains, ce que vous avez évoqué. Il y a le Christian Science Monitor qui sont toujours à Boston. On ne parle pas de la Scientologie qui ont commencé avec des romans de science-fiction et ainsi de suite. On a énormément de liens de ce côté-là qui ont survécu quand même, hein, qui sont toujours là.
Moi, je me demande aussi si le positivisme, c'est pas une espèce de devoir qu'on demande aux auteurs de science-fiction, parce que bon, c'est aussi très important de lancer beaucoup d'avertissements sur attention, les dangers de la science, etc. Mais il y a aussi un petit peu le devoir, entre guillemets, d'ouvrir la voie. Enfin, aujourd'hui, ça nous rattrape un petit peu. Il y a, comment dire, les trois lois d'Asimov. Aujourd'hui, elles sont utilisées en robotique. Et, enfin, à la base, ça vient juste de la science-fiction. Je pense aussi d'une autre façon. Des fois, il y a la réalité, ça arrive de plus en plus souvent, qui rattrape la fiction. Il y a cette nouvelle de Nancy Kress qui est « L'une rêve, l'autre pas » et qui parle d'un avenir où, en fait, il y a une mutation possible humaine où, en fait, on peut faire en sorte que vous n'ayez plus jamais besoin de dormir. Et donc, en fait, ça crée un déséquilibre majeur sur, grosso modo, des gens qui, en fait, ont la possibilité de travailler, d'étudier la nuit et surtout en leur jeune temps, ce qui les rend évidemment extrêmement intelligents. Et puis, ceux qui sont obligés de dormir et qui, quelque part, perdent du temps à ça. Et elle crée, bon, alors évidemment, ça ne va pas être aussi simple, mais dans sa petite novella, elle crée justement, elle pose vraiment cette question-là. Et aujourd'hui, enfin, au moment où je lisais cette novella qui a eu plein de prix et qui doit avoir 4-5 ans, je pense, j'étais en train de lire en parallèle un article qui disait qu'ils avaient inventé une molécule, alors qui est encore au stade expérimental, mais en fait que les gens pouvaient prendre, alors qui coûtait extrêmement cher, et que les gens pouvaient prendre et qui en fait permettait de diminuer le sommeil, mais sans aucune conséquence secondaire. Et en fait, il disait que ça pouvait créer plus tard, on pouvait imaginer un clivage entre une société, donc une lutte des classes qui reposerait en partie sur le sommeil, avec des pauvres qui, eux, seraient obligés de dormir 8 heures par jour et des riches qui, eux, pourraient se permettre de dormir 1 à 2 heures par jour et qui, en fait, gagneraient littéralement du temps de vie en plus, en fait. Et quelque part, bon, quand on voit positivisme et science-fiction, est-ce que c'est pas finalement un peu le devoir des écrivains de se pencher sur l'avenir, mais peut-être pas juste donc de mettre en garde, mais de dire ah mais peut-être qu'il y aurait cette solution là, ou enfin de montrer des voies possibles.
Vous le ressentez, Pierre, quand même, ce devoir que vous coderez ?
Non, je n'ai aucun devoir, j'ai que des droits. Je me suis toujours demandé, enfin, au début, je me suis demandé pourquoi je faisais de la science-fiction. Et c'est les lecteurs qui me disaient, mais pourquoi vous faites de la science-fiction ? Pourquoi vous ne faites pas des romans réalistes comme tout le monde, des trucs sérieux et tout ça ? Et je me dis, quel est l'intérêt de la science-fiction ? Et j'ai réfléchi, ça m'arrive. Et je me suis dit, oui, finalement, la science-fiction dégage trois intérêts majeurs qu'on a du mal à retrouver dans les autres formes de littérature. Alors, c'est pour ça qu'il y a une attente sur la science-fiction. D'une part, ça propose un merveilleux voyage, au sens nouveau voyage extraordinaire Jules Verne, c'est-à-dire vous êtes décollé de votre quotidien et donc vous allez vous balader ailleurs dans l'espace-temps, ce qui est en soi un dépaysement et un plaisir, et aussi un plaisir pour l'auteur, c'est de proposer du dépaysement, c'est créer un effet vertige, de décoller, se décoller de son réel, comme un toboggan d'un seul coup qui vous plonge des siècles plus loin ou dans l'espace des années-lumière plus loin. Premier intérêt. Deuxième intérêt, puisque vous êtes décollé de votre réel, vous êtes en haut de la fourmilière. Et d'un seul coup, vous voyez les mouvements en germe dans votre présent. Donc vous voyez les mouvements de fond comme le mouvement des fourmis. Quand on est soi-même fourmi au niveau des fourmis, on ne voit pas très bien ce qui se passe. Quand on est au-dessus de la fourmilière, on voit des mouvements d'ensemble. Et donc on se dit, tiens, le monde va plutôt dans cette direction-là. Et donc, qu'est-ce que peut donner cette direction-là ? Et donc on va explorer cette direction-là. Et donc, par conséquent, ça va devenir une réflexion sur le présent. Alors c'est un paradoxe, on ne parle jamais mieux du présent que lorsque l'on fait de la science-fiction. Troisièmement, et ça c'est peut-être l'aspect qui m'intéresse le plus, je pense que la science-fiction est une continuité des littératures mythologiques dans le sens où elle s'interroge sur les problèmes fondamentaux de l'homme, sur les interrogations fondamentales de l'homme depuis la nuit des temps, sur, alors je vais prendre le mythe de Gilgamesh que j'utilise toujours, qui est une interrogation sur l'immortalité. Donc c'est déjà posé par nos anciens. Et donc, nous ne faisons que reprendre cette réflexion à l'aune des nouvelles créations technologiques qui permettent de déplacer un peu le point de vue. Donc, c'est une tentative, à mon avis, de réécrire des récits mythologiques à la lueur de la science. Ce qui fait qu'on en attend des réflexions, on en attend quelque chose par rapport à la fantasy. Alors, je fais de la fantasy aussi, donc je n'ai rien contre la fantasy. Au contraire, la fantasy qui s'intéresse plus aux archétypes, qui est plus de l'ordre de la mythologie pure et qui s'intéresse principalement aux fondements humains, c'est-à-dire aux... Je m'excuse pour l'expression, aux bases de l'être humain, c'est-à-dire ses aspirations fondamentales. Voilà, c'est plutôt ça qu'il faut dire. Mais qui ne mêle pas la science et le décalage de point de vue qu'elle peut proposer. Donc la science-fiction a un intérêt majeur, et c'est pour ça qu'on en attend des choses, on en attend des solutions quasiment, parce que ce sont des auteurs qui se projettent en avant pour essayer des sentinelles du futur, pour essayer de voir ce qui peut se passer et proposer des pistes de réflexion et poursuivre cette interrogation fondamentale, tout en proposant un merveilleux voyage, qui est une combinaison d'intérêts qu'on a du mal à retrouver dans les autres formes de littérature.
Et vous, Karim, vous posez en sentinelle du futur, en vigilant, vous avez des devoirs ou...
Non, je ne les faisais déjà pas quand j'étais à l'école, alors si en plus je devais m'en poser. Moi je pense que mon approche dans la SF, quand j'en écris très peu, mais... C'est surtout d'extrapoler à partir de ce qu'on a déjà, que ce soit des technologies ou au niveau sociologique, et d'imaginer un futur qui est proche ou lointain, mais surtout où on essaye de pousser ces situations à bout pour voir ce que ça pourrait devenir de pire ou de meilleur, hein, si on veut faire de l'utopie. Et comme l'histoire des clones, ou savoir de trouver des problématiques qui n'existent pas aujourd'hui avec des technologies qu'on commence à maîtriser ou qu'on peut imaginer, mais j'ai pas la prétention en tous les cas de prophétiser quoi que ce soit, de savoir ce qui va se passer dans le futur, parce que on a beau connaître certaines technologies et les maîtriser, on n'est pas capable de savoir ce qui va se passer économiquement, socialement dans 10 ans et qui va réorienter des exemples tout bêtes. On a inventé le Concorde il y a dans les années 70, il me semble, 60, fin 60 et 69, enfin je sais pas. On traversait l'Atlantique en en 3h30. Donc, on a pu se dire brièvement que dans les années 2000, on pourrait aller en Chine en 2 heures. On aurait des avions supersoniques partout. C'est trouvé qu'il y a eu une crise économique. Et il s'est trouvé que les sociétés américaines n'ont pas tellement apprécié que les Européens inventent un avion qui aille plus vite que les leurs. Et finalement, aujourd'hui, on fait une sorte de régression technologique. On n'a plus d'avions supersoniques. Donc, l'auteur de science-fiction peut imaginer, mais tout ce qu'il veut, on peut parler du clonage, de la robotisation. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas. Il va y avoir des contingences ou des choses qui vont influer là-dessus, qui sont pas du domaine de la science et qui sont pas du domaine de la logique, dire positive.
Je pense que l'auteur de science-fiction n'est surtout pas un devin ni un futurologue. C'est quelqu'un qui réfléchit sur le présent. C'est un gardien du présent. Je pense que c'est son rôle principal. Et c'est...
Justement, moi, ce qui m'étonne assez dans la science-fiction télévisuelle, c'est que c'est la disparition du futur. Avant, le futur était bon ou mauvais, mais il était anticipé. Maintenant, si on prend des séries qui sont clairement marquées science-fiction, comme le récent... alors c'est Westworld, la déclinaison de Monde Ouest, c'est ça. Person of Interest, des choses comme ça. Black Mirror, par exemple, sont des futurs dans 10 minutes. C'était le slogan de Black Mirror. Comment se fait-il qu'on peut pas projeter maintenant d'optimisme ou de positivisme au-delà de 10 minutes dans le futur?
Je crois qu'on a peur, en fait. C'est un peu compliqué, je vais faire ça rapidement, mais c'est déjà au niveau technologique, on est arrivé à un truc tellement complexe que qu'est-ce qu'on peut imaginer demain? On a peut-être imaginé beaucoup de technologies et qu'est-ce que va devenir le monde si on peut mettre l'esprit des gens dans des petites boîtes informatiques ou si on peut... Donc ça fait un peu peur. Et puis surtout, on est dans une période où on n'est plus dans les années 70, où on avait vraiment une envie d'ouverture. Là, on est plutôt sur une période de repli où les gens ont plus peur des autres et du futur. Donc, du coup, je pense que j'en sais rien. En tous les cas, je l'ai dit et vous m'avez tous écouté. Je vous remercie.
Il y a peut-être aussi le fait que l'avenir, maintenant, c'est un discours. Il n'y a pas d'avenir, pense à ton avenir, des machins comme ça. On en est saturé pour des mauvaises raisons.
Là, il y a peut-être un côté générationnel. Enfin, pour le coup, moi, le pense à ton avenir, je suis un peu la génération. Toi, Karim, peut-être un peu moins déjà, mais
que je suis vieux.
Je sais pas. Non, t'es pas dans la génération Y, toi, parce que moi, je suis sur le début, on va dire. Moi, je suis la génération qu'on a saoulée avec pense à ton avenir. Mon père m'a gavé avec et ta retraite. T'as pensé à ta retraite. J'avais 16 ans. Et comment dire, en fait, il y a un stade juste où on est toute cette génération qui est un peu la génération geek aussi, qui est la génération qui a été séquestrée dans sa piôle. Je pense que c'est pour ça que d'ailleurs les réseaux sociaux se sont développés. Parce qu'on avait des parents très inquiets qui pensaient qu'on aurait un avenir brillant si on travaillait bien à l'école. Et en fait, passé les études, on s'est rendu compte qu'on s'était bien fait balader. Et que, en fait, le monde n'était pas du tout ce qu'on nous avait promis, quoi. Donc. Je pense que c'est aussi pour ça que sur la promesse non tenue, moi je suis sur une génération où je ne vais pas aller jusqu'à dire désabusé, mais où on se rend compte qu'en fait tout reste à inventer. Je ne parle même pas en termes de technologie, mais peut-être plutôt en termes de positivisme où finalement le positif qu'on nous avait promis n'est pas au rendez-vous. Donc va falloir chercher notre voie.
Et Sylvie, vous pensez comment par exemple, vous travaillez sur soit la littérature, soit les séries, puisque j'aimerais que vous en parliez de ça, des séries. Comment vous pensez, par exemple, justement, avec des étudiants d'aujourd'hui, le futur, le positivisme tel qu'il était pensé, par exemple, dans ce qu'évoquait Karim, ou le négatif dans les textes de l'âge d'or, ils sont toujours vivants en tant que positifs, les anciens textes auprès des étudiants d'aujourd'hui?
Alors, avant de répondre à la question, je voudrais revenir sur le terme positivisme qui me trouble depuis le début. Et j'ai retrouvé en ligne le résumé. Donc, en fait, on parle ici de... Je vais faire vraiment la philosophe de service, mais là, on parle en fait de positivité. Et le positivisme, juste histoire que ça soit dit une bonne fois pour toutes, c'est un mouvement philosophique qui a été créé par Auguste Comte au XIXe siècle, qui n'a rien à voir avec pas grand chose à voir avec le positivisme. Mais moi, ça me heurte à chaque fois parce que c'est juste pas la définition du dictionnaire, en fait. Donc, le positivisme, c'est une idée, une doctrine philosophique qui dit, pour résumer,
Enfin, il y a Auguste Comte parle d'une loi de l'histoire où d'abord il y avait des questions. Enfin, on expliquait les choses par les dieux, puis on expliquait les choses par des substrats métaphysiques, et on arrive au XIXe siècle, et plus particulièrement avec Auguste Comte, à une ère nouvelle, qui est l'ère de du positif, où on fait de la science et on oublie les questions pourquoi auxquelles on ne peut pas répondre, pour s'intéresser uniquement aux faits positifs. Voilà. Et après, il y a donc le positivisme... A priori, il n'y a pas de lien avec... On est d'accord hein, là-dessus, entre optimisme et pessimisme. Maintenant, c'est vrai qu'il y a... Et c'est vrai qu'il y a une espèce, à mon sens, de décalage entre le résumé de cette table ronde et le titre. En fait, le sujet qu'on traite, c'est positivité et science-fiction. Voilà. Alors, ceci étant dit...
Bah disons que d'entrée,
t'as plutôt adopté le.
Bah oui, parce que Auguste Comte, c'est pas très glamour. Une fois qu'on sait qu'il a influencé le drapeau du Brésil et qu'il avait épousé une prostituée pour laquelle il s'est jeté dans la Seine. Une fois qu'on a dit ça, on faut tenir 45 minutes quand même.
Non, mais c'est pas du tout un reproche. Au contraire, enfin, c'est pas du tout. C'est juste que moi, je suis troublée depuis tout à l'heure. Mais
l'inventeur du positivisme a fini en suicidant, donc.
Ah, c'est une histoire incroyable.
C'est quand même gratiné. Enfin, moi, je trouve qu'il y a mensonge là aussi, quand même.
Mais oui, mais parce que c'est juste que ça c'est un autre sens de positif. Mais donc, pour revenir à la question que vous posiez, quand j'ai l'occasion de parler de science-fiction, alors il y a deux choses. Quand j'ai l'occasion de parler de science-fiction avec mes étudiants, il y en a toujours qui connaissent un peu les classiques, par exemple, qui connaissent un peu Fondation, enfin qui connaissent un peu Asimov, ou qui voilà, il y a quelques livres qui surnagent dans la grande tradition de la science-fiction et qui sont des classiques de la science-fiction. Après, sur la question donc, de la positivité, de l'optimisme, j'étais assez frappée parce que, par exemple, l'année dernière, on a organisé dans mon université un colloque sur le transhumanisme. Donc, le transhumanisme, c'est une forme d'ailleurs qui réunit à la fois positivisme et positivité, hein, qui du fait d'une conception positiviste. Vous n'êtes pas d'accord ? D'accord. Mais qui se fonde sur une vision positiviste de la science et qui l'accompagne d'un optimisme, c'est ça que je veux dire. Bon, bref. Mais en France, la perception, puisque c'est pas un mouvement qui est principalement, disons, anglophone, et la perception qu'on en a en France est en revanche extrêmement négative. Donc en général, en français, quand vous entendez parler de transhumanisme, c'est surtout pour en entendre essentiellement du mal. Et donc le colloque qu'on avait organisé sur le transhumanisme, globalement, le discours était le discours dominant de c'est des fous furieux, ils sont inquiétants, ils font n'importe quoi, etc. Mais alors, ce qui avait été très étonnant pour moi quand les étudiants avaient participé à la conférence, enfin, y avaient assisté, et ensuite j'avais un cours de discussion sur la conférence. Et là, j'avais été très surprise de voir que les étudiants étaient, en plus, bon, je suis à l'Université catholique de Lyon, donc c'est une université catholique, on peut s'imaginer qu'on va être avec des gens un petit peu réfractaires à certains développements, mais en fait pas du tout, la réception était plutôt très... Il y avait une espèce en fait de mélange de résignation, mais assez enthousiaste de dire de toute façon on est entouré de technologies. Alors c'est vrai que c'est des étudiants en sciences avec lesquels je travaillais, mais et encore cette année, quand j'ai eu l'occasion de parler de la sensibilité donc de jeunes gens qui ont une vingtaine d'années sur comment vous percevez les problèmes, puisque moi j'enseigne l'éthique hein, des sciences, comment vous percevez tous ces enjeux, et ben, généralement, moi j'ai plutôt alors c'est une expérience qui n'est pas une expérience statistique, scientifique, hein, c'est juste, mais c'est la question que vous me posiez, mon expérience d'enseignante, les jeunes, malgré toutes les catastrophes qu'on leur promet, restent plutôt optimistes dans l'ensemble et ont l'air de se dire, mais finalement, il y a des avantages, on pourra faire des choses. Moi, j'aimerais bien utiliser telle technologie, telle ou telle, ou par exemple, ça m'intéresserait de prendre une pilule anti-sommeil, etc. Et donc, malgré le discours dominant qui est éventuellement assez anxiogène, eux sont plus sensibles à l'aspect positif des technologies qui s'annoncent.
Milès, vous vouliez réagir à un moment ?
Non, c'est pas pour... Je crois, ce qui est curieux avec le transhumaniste, et je suis entièrement d'accord avec vous, que la réception française, en gros, elle est négative. C'est quelque chose qui va nous déposséder de notre humanité. En gros, je simplifie. Par contre, ce qui est curieux dans le transhumaniste, il y a plusieurs écoles. Des écoles extrêmement différentes. Parfois, il y a des conflits, on va dire, théologiques, métaphysiques entre eux. D'habitude, en France, le côté qui est le plus travaillé, c'est celui de la singularité. Kurzweil et compagnie, qui a une histoire scientifique depuis von Neumann jusque-là. Il y en a d'autres qui sont plus intéressantes parce qu'elles posent des questions éthiques et philosophiques qui sont de vraies questions, à mon avis, et où il y a des dialogues tout à fait intéressants. C'est tout, je crois que c'est assez riche, assez complexe, et surtout que des versants européens des transhumanistes qui sont minoritaires sont très complexes. Juste un exemple pour donner une illustration. Une école transhumaniste italienne qui était des fascistes sont devenus super fascistes, sont devenus aujourd'hui transhumanistes. Intéressant à suivre les débats intra-transhumanistes. Ils étaient rejetés par les transhumanistes américains à cause de certaines formes de racisme qui se sont traduites. C'est assez intéressant. On retrouve des débats du 19e siècle pour retrouver notre positivisme, ainsi de suite. Je crois que c'est extrêmement complexe, si vous voulez. C'est tout ce que j'imagine vous avez évidemment vu dans votre colloque. C'est là où... Voilà. Alors après, on a une version aujourd'hui très simple. Mais finalement, ils ont publié une anthologie des écrits transhumanistes qui permet aux gens un petit peu de voir la diversité des points de vue. Et surtout, je vais m'arrêter là. Il y a un texte qui est extrêmement violent, transhumaniste, c'est le Paris transhumaniste qui vaut la peine d'être lu, qui a un énorme succès dans la communauté, qui reprend le Paris pascalien. Et là, on voit l'aboutissement d'une école. Ça vaut la peine pour les gens que ça peut intéresser.
Alors, en préparant l'émission,
je voudrais réagir sur le transhumanisme parce que ma réception est extrêmement négative sur le transhumanisme parce que je pense qu'il y a un danger, parce qu'il y a une idéologie derrière qui est celui de l'homme augmenté ou du surhomme et qui me paraît être une impasse de la même façon que toute idéologie est une impasse. Le positivisme d'Auguste Comte est une impasse parce que ça devient une idéologie. Et l'idéologie conduit à des systèmes de pensée fermés qui sont finalement des impasses. Donc le transhumanisme me semble relever de la même démarche, c'est-à-dire une idéalisation des choses, une idéologie qui fait qu'on va encore se planter parce que c'est simplement, comme dit Krishnamurti, c'est la pensée qui crée du temps et on reprend des mécanismes déjà très anciens. Alors à ça, j'oppose une phrase des Indiens d'Amérique qui dit « Aujourd'hui, c'est un beau jour pour mourir », qui pour moi est la plus belle phrase philosophique au monde parce qu'elle, dans ce qu'elle a d'acceptation de l'état d'humain. En fait, nous essayons de fuir en permanence notre état d'humain au lieu de le... Audrey, tu avais tout à fait raison tout à l'heure en disant que c'était dans l'humanité qu'on trouvait des clés. C'est l'état humain qui est important, enfin pour moi, parce que je suis un humain, a priori. Je ne suis pas un extraterrestre, je vous rassure. Et que ce qui m'intéresse, c'est d'explorer l'humain dans toutes ses dimensions, parce que j'ai l'impression que toutes ces notions-là d'idéologie ou de transhumanisme, ou de la religion avant elle, avant tout ça, c'était de nier son état d'être humain pour dire... À l'extérieur, il y a des choses qui vont nous aider, à l'extérieur, des choses qui vont nous faire évoluer. Et je pense que c'est une impasse. Je pense que, peut-être que je me trompe, hein, enfin, c'est la voie que j'ai choisi d'explorer en tant qu'humain, c'est-à-dire d'essayer d'explorer au maximum l'humain en moi pour voir s'il a développé toutes ses capacités, toutes ses possibilités, et entre autres, on a parlé d'empathie ce matin par rapport aux machines, de ses capacités d'empathie par rapport aux autres humains. Il me semble qu'il y a un travail à faire dans ce sens-là et qu'on part sur des voies encore idéologiques qui, à mon avis, conduisent à des impasses et à des gouffres. Pardon.
Non, non, j'ai rien. J'étais en train de bâiller.
Merci, c'est agréable.
Il ne reste que 5 minutes. On nous a dit ce matin d'accélérer un peu plus pour les transitions. Moi, j'aurais bien aimé qu'on parle du cinéma de science-fiction qui, dans les années 70, est très, très noir et accumule les chefs-d'œuvre, Soleil Vert, Rollerball, un peu avant La Planète des Singes, etc., qui est très, très noir et qui après devient fade ou optimiste. Comment se fait-il que ce soit l'envers, justement, fin 60, fin 70, le cinéma de science-fiction est un cinéma sombre?
Tu dis
bah, Star Wars, c'est pas... C'est...
Bah, qui finit un peu ce cycle, justement. C'est parce que c'est du faux sombre. C'est...
Non, je rigole.
C'est gentillet, quand même.
Oui, y a
tu prends Soleil Vert, c'est...
Je sais, c'est peut-être parce que c'est aussi le début de la guerre froide et qu'on est plus sur des thématiques de peur. Mais on l'est aujourd'hui. Hein, à part le cinéma qui est quand même... Assez, dans le spectacle, on a quand même beaucoup de films d'apocalypse, bah, de post-apocalypse, d'invasion zombie.
On a eu quand même eu le grand retour de la thématique zombie. Enfin bon, généralement, il y a des cycles, hein, on le sait, il y a les vampires qui viennent, les elfes, etc. Et puis là, c'est vrai que ça fait quoi? Ça fait 10-15 ans qu'on a eu le grand retour du zombie, où là, les films post-apocalyptiques, quand même, ces 15 dernières années, je pense qu'on a été bien arrosés, quoi. C'est... Et justement, ce que je trouve intéressant, c'est que depuis 3-4 ans, on voit fleurir des bouquins sur cette thématique-là qui, d'un coup, prennent un angle presque positif et intéressant. Il y a Celle qui a tous les dons, qui a été publiée chez La Talente, qui de ce côté-là, pour moi, traite la thématique d'une zombie d'une façon qui est parfaitement inédite et passé l'apocalypse, qui est toujours un sale moment un peu désagréable. Le principe, en fait, c'est on s'arrête pas à l'apocalypse, on va chercher plus loin. Et il y a une volonté de reconstruire le monde. Alors avant, le début du film de zombies, enfin le début il y a 10 ans, c'était grosso modo comment survivre et comment éradiquer le zombie. Alors que là, et même toi, c'est ce que tu as fait dans le club des punks contre l'apocalypse zombie, c'est bon, il y a eu l'apocalypse, faut faire avec, on va pas pouvoir éradiquer les zombies comme ça, et tu composes, enfin je sais pas, et j'ai l'impression que c'est presque dans l'horreur qu'on trouve un peu le positif.
Oui, je ne sais pas si c'est très représentatif du débat. Non, c'est juste des punks qui ont décidé de créer une communauté anarchiste. Donc, c'est plein d'espoir. Mais bon,
ils ont quand même une volonté utopiste. Je ne suis pas sûr que ça soit...
Soit qu'on dérive un peu et des films et du positivisme.
C'est pas bien grave de dériver du positivisme. Auguste Comte flottait dans l'eau de la Seine.
Non, mais c'était intéressant. C'est dommage parce que c'était intéressant. Comme moi, c'est un concept que j'ai du mal à saisir, hein, le positivisme. J'avoue que, en plus, aujourd'hui, je suis un peu l'esprit embrumé. Mais ça aurait été intéressant que qu'à partir de cette théorie, tu puisses nous dire ce qui a pu découler de ça dans la SF, dans les idées des.
Ce qui est dans le sujet, c'est que effectivement dans le positivisme comme doctrine philosophique, il y a l'idée que la science est désormais l'alpha et l'oméga des questions qui méritent d'être posées. Et dans le positivisme d'Auguste Comte, l'idée, c'est que les autres questions, genre est-ce que Dieu existe, ça ne sert à rien de se les poser parce que c'est une question qui n'a pas de sens, parce qu'on ne peut pas y répondre. Et donc, les seules questions qui méritent d'être posées, c'est des questions auxquelles on peut donner des réponses parce qu'on a une méthode scientifique pour y répondre. Donc, dans ce sens-là, dans la science-fiction, il y a un lien avec cette idée d'optimisme parce que, en fait, et qu'on retrouve dans le transhumanisme, c'est l'idée que c'est la science et la technologie qui en découlent qui vont résoudre tous nos problèmes. Donc quand on dit voilà, enfin quand on parle du positivisme scientiste, c'est en fait de ça qu'on veut parler. Et la science-fiction est imbriquée dans ce mouvement et d'une certaine façon questionne en permanence ce mouvement. D'une certaine façon, la science-fiction, c'est une interrogation permanente sur le bien fondé du positivisme dans ce sens-là. Est-ce que la science, c'est ce qui va nous effectivement répondre à toutes nos questions? Et là où la science-fiction va quand même plus loin que le positivisme, c'est qu'elle renoue, comme vous le disiez, avec en réalité des grands questionnements métaphysiques et donc avec des questions dans lesquelles ne se reconnaît pas Comte, mais par contre ça illustre ce que dit Kant.
Ah non, au revoir.
puisque Kant dit que ces questions-là, ce sont des questions de la raison pure, et que jamais, enfin, que la raison est faite de telle façon à ce que sans cesse on se pose ces questions fondamentales et qu'on ne peut pas juste y renoncer. Si on croit y renoncer, de toute façon, elles reviennent.
Chez Kant, le temps est absolu, mais chez nous, il est relatif.
Je me demande si le positivisme n'a pas servi de prétexte à nos sociétés occidentales pour aller conquérir le monde, piller les ressources des autres, etc. C'est-à-dire qu'on avait une sorte de légitimité par rapport aux gens qui étaient non dans la lumière et qui, par le positivisme scientifique, c'est-à-dire notre vision des choses, on n'en a pas profité pour annexer un peu toutes les richesses du monde.
Bien, je vous remercie. Je ne pense pas qu'on ait question. Enfin, on peut gratter quand même. Il y a quelqu'un qui veut poser une question. Ah non, voilà. La police des utopias arrive. Non, c'est bon. Merci.